voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Virginia Crespo.
Dans un article consacré au roi François Ier pour le Figaro magazine, Marc Fumaroli de l'Académie française écrit « Gourmand, sensuel et débordant d'énergie, le roi incarne la grande figure du monarque au siècle de la Renaissance. Est-ce un hasard si Pantagruel fut son contemporain ? La guerre, les arts et les femmes, François Ier a tout aimé avec excès. Son œuvre immense fait oublier ses échecs, car avec lui, la monarchie capétienne choisit la voie du prestige. En 1515, Louis XII meurt sans descendance mâle. François Ier est le fils de Charles d'Orléans et de Louise de Savoie. Marié à la fille de Louis XII, Claude de France, François Ier succède donc à son beau-père. Adulé par sa mère Louise, par sa sœur Marguerite, éduqué plus énergiquement par le maréchal de Gier, il a à la fois le goût pour la poésie et le combat. Il rêve d'exploits chevaleresques. Son premier projet de roi est de reconquérir le nord de l'Italie. François Ier, à la tête de sa cavalerie, engage un combat fougueux dans la plaine de Marignan. Les Italiens qualifieront ce type de charge de « furia francese ». Cette victoire est un événement qui claque comme une bannière dans toutes les capitales d'Europe. Un nouveau roi, un roi de 20 ans, est né. L'homme était d'ailleurs un colosse d'une taille peu commune pour l'époque, près d'1m90. Canal Académie vous propose au cours de deux émissions consacrées au vainqueur de Marignan de découvrir quatre regards d'académiciens sur le parcours et la personnalité de ce roi. Voici une première émission qui vous invite à écouter des textes des académiciens Gabriel-Henri Gaillard et Victor Duruy. La seconde émission vous permettra d'écouter des textes de François-Auguste Migné et du duc de Lévis-Mirepoix. Dans la voix de Daniel Jeanne, voici maintenant quelques informations concernant l'historien académicien Gabriel-Henri Gaillard.
Gabriel-Henri Gaillard, né en 1726 à Hostel, village de l'Aisne proche de Soissons, est à la fois avocat, grammairien, critique littéraire et historien français. Il fut rédacteur au Mercure de France et au Journal des Savants. À 20 ans, il se fait connaître par son essai de rhétorique à l'usage des demoiselles, qui connaît un franc succès et sera souvent réédité. Il est aussi l'auteur de nombreux éloges académiques. Il reste connu comme historien pour les 11 volumes de son Histoire de la rivalité de la France et de l'Angleterre, publié à partir de 1771. En 1805, il publie la biographie de son ami Lamoignon de Malesherbes. Il est élu à l'Académie des inscriptions et belles-lettres en 1761 et à l'Académie française en 1771. Il meurt en 1806 à Vineuil-Saint-Firmin, situé dans l'Oise, au nord-est de Chantilly. Il écrit en 1769 son Histoire de François Ier, roi de France, dit le grand roi et le père des lettres. C'est avec la description de la bataille de Marignan, qui se situe en septembre 1515, quelques mois après le sacre à Reims de François Ier, que nous ouvrons ces émissions consacrées à ce roi, souvent appelé le roi chevalier ou le roi guerrier.
François, comte d'Angoulême, naquit loin du trône où il devait monter un jour. Charles VIII occupait alors ce trône. Il avait un fils qui en écartait encore la branche d'Orléans, dont la branche d'Angoulême n'était que cadette. L'éducation de François fut aussi confiée par Louis XII à un sage. C'était Artus de Gouffier-Boisy, gentilhomme qui osait être éclairé, dans un siècle où la noblesse mettait encore l'ignorance au nombre des titres dont elle était jalouse. Cet excellent instituteur trouva dans son élève un tempérament plein de feu, capable de toutes les vertus et de toutes les passions. Il fallait diriger ce feu utile et dangereux, tantôt l'animer, tantôt l'amortir. C'est, dit-on, ce que Boisy voulut signifier par la devise qu'il fit prendre à François. C'était une salamandre dans le feu, avec ces mots assez peu intelligibles. « Nutrisco et extinguo ». Tous les cœurs se tournèrent bientôt vers ce jeune roi, en qui tout annonçait un héros. Il fut sacré à Reims le 25 janvier 1515 par l'archevêque Robert de Lenoncourt. Jamais roi ne monta sur le trône avec des applaudissements si universels et ne fit naître de si flatteuses espérances. On aimait en lui le gendre et l'ami de Louis XII. On l'aimait pour lui-même, indépendamment de ses titres. On s'attendait à voir revivre les vertus de son prédécesseur embelli d'un éclat qui avait manqué au règne heureux de Louis XII. Tout promettait cet éclat si désiré, qui fait la gloire des nations et qu'on prend souvent pour le bonheur. François avait fait ses preuves. On l'avait vu aimable dans la paix, ardent et habile à la guerre. Orner la cour, servir l'État, repousser l'ennemi. La noblesse, qui ne respirait que par la guerre, attendait tout de cet amour pour la gloire dont elle le voyait enflammé. Les femmes comptaient sur sa jeunesse et sur sa sensibilité, les courtisans sur cette libéralité magnifique qui ne savait rien refuser. Le peuple était enchanté de sa franchise, de son affabilité. Il ne démentit dans la suite aucun de ses présages. L'amour de la gloire éclata le premier, et bientôt, on vit éclore des projets dignes de son courage. Les guerres d'Italie, sous Charles VIII et sous Louis XII, avaient formé d'excellents capitaines, tels que les Châtillon, les Darces, les La Trémoille, les Chabannes, les Bayards, les d'Imbercourt, les Galliot, les Trivulse, etc., sous lesquels se formaient plusieurs jeunes capitaines pleins d'ardeur et de courage, tels que Lautrec et ses deux frères, Lesquin et Lespard, de la maison de Foix, cousin de Gaston. Bonnivet, frère du gouverneur du roi, Montmorency, Brion, Téligny, les Créqui, les Guise, les Dubellay, les Lamarque, etc., tous vrais chevaliers passionnés pour le roi, pour l'État, pour la guerre, pour la gloire. Ils étaient en général peu jaloux de commander, peu exercés à obéir. Tous très ardents à combattre. La plupart bornaient leur ambition à être capitaine ou même lieutenant des compagnies de gendarmerie. Le corps de la gendarmerie ou cavalerie française n'était composé que de noblesse. Si quelquefois on y admettait des gens nés dans le tiers-état, c'était-il condition de n'exercer que la profession des armes, qui alors les anoblissait. Cette troupe avait longtemps passé pour invincible. Elle chargeait avec une impétuosité si brusque qu'elle ébranlait et entamait d'abord les bataillons les plus fermes. C'était dans ce corps de gendarmerie que consistaient les principales forces militaires de la France. Elle avait, comme on l'a dit, peu d'infanterie nationale. Et cette infanterie, enrôlée pour une seule campagne, composée de laboureurs et d'artisans, impatients de retourner à leur charrue ou à leur métier, n'avaient ni valeur ni discipline, ne savaient ni n'aimaient cet art de la guerre, auquel on n'avait jamais le temps de la former. Cette disette de bonne infanterie nationale avait engagé Louis XI, Charles VIII et Louis XII à se servir d'infanterie suisse. Mais depuis la rupture de Louis XII avec les Suisses, on avait eu recours aux lansquenets et aux grisons. Il eût mieux valu sans doute s'attacher à discipliner l'infanterie française en la retenant sous le drapeau en tout temps et en l'exerçant aux évolutions militaires. Tel était l'état où François Ier, à son avènement, trouva l'Europe et la France. Comme il allait sortir du royaume et se livrer à tous les hasards d'une guerre lointaine, il se débarrassa des soins de la royauté et donna la régence à sa mère. Il avait partagé son armée en trois corps. Le connétable eut le commandement de l'avant-garde. Il prétendait que c'était un droit de sa charge. Le roi se réserva le corps de bataille et donna le commandement de l'arrière-garde au duc d'Alençon. Il attendit à Lyon que l'avant-garde se fût ouvert une route à travers les Alpes. On n'en connaissait que deux du côté du Dauphiné, l'une vers le nord par le mont Cenis, l'autre vers le midi par le mont Genèvre. Toutes deux aboutissaient au pas de Suse, où les Suisses s'étaient postés. Ainsi, ils occupaient tous ces passages. L'impatience française eût bien voulu les emporter de force, mais l'infanterie entière eût péri dans ces défilés étroits et tortueux, sans pouvoir se développer ni être secondée par la cavalerie. On fit embarquer une partie des troupes sous la conduite d'Aymar de Prie, grand maître des arbalétriers de France, avec ordre de descendre à Gênes et de pénétrer autant qu'elle pourrait dans le Milanais au-delà du Po. On espérait que la crainte d'être attaqué à la fois par devant et par derrière et la nécessité de défendre le Milanais engageraient les Suisses à décamper de Suse, et qu'alors le reste de l'armée française passerait sans obstacle. Mais ce parti était encore plein d'inconvénients. On avait à craindre les dangers de la navigation, l'inconstance et la perfidie des Génois à peine encore déclarés. En supposant même que ce détachement puisse s'introduire dans le Milanais, était-il bien sûr qu'il y fît des progrès capables d'arracher les Suisses du poste de Suse? L'embarras était toujours extrême, et le malheur de n'avoir pu prévenir les Suisses paraissait irréparable. La fortune offrit un moyen imprévu de le réparer. Un paysan piémontais, dont la reconnaissance des Français aurait dû conserver le nom, errait depuis 60 ans dans les détours des Alpes. La chasse, dont il faisait son unique métier, l'avait mis en commerce avec les vivandiers français qu'il fournissait de gibier. Il apprit par eux l'embarras de l'armée et conçut l'espérance de faire fortune. Il alla trouver le comte de Morette, son seigneur, qui, moyennant l'alliance du duc de Savoie avec la France, servait alors dans l'armée française. Il lui indiqua une route inconnue par laquelle on pouvait tromper la vigilance des Suisses. La nouvelle route offrait des abîmes profonds, mais on pouvait les combler ou les éviter. Des rochers épais, mais on pouvait les percer, des montagnes escarpées, mais on pouvait les aplanir. C'était la première marche d'Hannibal à travers les Alpes, avec tous ses travaux et tous ses périls qu'il s'agissait de renouveler.
À bas l'ennemi ! Au combat ! Attaque !
On part, un détachement reste et se fait voir sur le mont Cenis et sur le mont Genèvre pour inquiéter les Suisses et leur faire craindre une attaque. Le reste de l'armée passe à gué la Durance et s'engage dans les montagnes du côté de Guillestre. 3000 pionniers la précèdent. Le fer et le feu lui ouvrent une route difficile et périlleuse à travers des rochers. On remplit des vides immenses avec des fascines et de gros arbres. On bâtit des ponts de communication. On traîne, à force d'épaules et de bras, l'artillerie dans quelques endroits inaccessibles aux bêtes de somme. Les soldats aident les pionniers, les officiers aident les soldats, tous indistinctement manient la pioche et la cognée. Poussent aux roues, tirent les cordages. On gravit sur les montagnes. On fait des efforts plus qu'humains. On brave la mort qui semble ouvrir 1000 tombeaux dans ces vallées profondes que l'argentière arrose et où des torrents de glace et de neige fondus par le soleil se précipitent avec un fracas épouvantable. On ose à peine les regarder de la cime des rochers sur lesquels on marche en tremblant dans des sentiers étroits, glissants et raboteux où chaque faux pas entraîne une chute et d'où l'on voit souvent rouler au fond des abîmes et les hommes et les bêtes avec toute leur charge. Le bruit des torrents, les cris des mourants, les hennissements des chevaux fatigués et effrayés étaient horriblement répétés par tous les échos des bois et des montagnes et venaient redoubler la terreur et le tumulte. On arrive enfin à une dernière montagne où l'on vit avec douleur tant de travaux et tant d'efforts prêts à échouer. La sape et la mine avaient renversé tous les rochers qu'on avait pu aborder et entamer. Mais que pouvait-elle contre une seule roche vive, escarpée de tous côtés, impénétrable au fer, presque inaccessible aux hommes? Navarre, qui l'avait plusieurs fois sondée, commençait à désespérer du succès, lorsque des recherches plus heureuses lui découvrirent une veine assez tendre qu'il suivit avec la dernière précision. Le rocher fut entamé par le milieu et l'armée introduite au bout de 8 jours dans le marquisat de Saluces, admira ce que peuvent l'industrie, l'audace et la persévérance. C'était pour elle un spectacle bien consolant de voir, après tant d'inquiétudes et de travaux, les différents corps pénétrer dans la plaine, les uns par le pas de la dragonnière, les autres par les hauteurs de Roxparvière et de Cogny. Le maréchal de la Palisse s'était frayé une route particulière. Il avait conduit une colonne par Briançon et Sestrières. Il marchait entre les Suisses et l'artillerie pour couvrir celle-ci, en cas que les Suisses, avertis de la marche des Français, fussent venus pour l'enlever. Les Suisses ne s'aperçurent de rien. Les Piémontais gardèrent religieusement le secret. Cependant, Prosper Colonne, un des guerriers les plus expérimentés de l'Italie, conduisait avec confiance la cavalerie du pape à une expédition dont le succès lui paraissait infaillible. Pour mériter le comté de Carmagnole, il allait joindre les bataillons des Suisses et accabler avec eux les Français enfermés dans les Alpes. Il allait, disait-il, les tenir « comme les pipioni nella gabbia », comme oiseaux en cage, selon Brantôme. Mais les Piémontais, qui avaient si bien caché la marche des Français, révélèrent encore à ceux-ci celle de Prosper et son arrivée à Villefranche, petite ville du Piémont, située sur le Pô, à quelques heures de sa source. Aussitôt, les maréchaux de Chabannes et d'Aubigny, Bayard, d'Imbercourt, Montmorency, tous les capitaines les plus propres à donner un coup de main, font monter à cheval leurs hommes d'armes et marchent à leur tête. Le comte de Morette et le même paysan les guident à travers le mont de l'Épervier qui n'avait jamais vu de cavalerie traverser ces âpres sinuosités. Il fallait passer le Pô. Les guides indiquèrent un gué peu connu et d'Imbercourt, qui conduisait l'avant-garde de ce détachement, arrive à midi à la vue de Villefranche. La sécurité y avait produit la négligence. Les postes étaient abandonnés, les soldats dispersés, les portes ouvertes. Cependant, l'ennemi est sous les murs. On le voit, on l'entend, on ne peut le croire. Et on ne peut en douter. On court en tumulte aux portes, on s'empresse pour les fermer. On est prévenu par l'impétuosité des Français. 2 gendarmes de la compagnie de d'Imbercourt, Alaincourt, gentilhomme picard, et Beauvais, gentilhomme normand, poussent leurs chevaux contre une des portes avec tant de violence que du choc, Alaincourt est précipité dans le fossé. Mais l'intrépide Beauvais passe sa lance à travers la porte, l'y soutient avec vigueur, donne le temps à d'Imbercourt et à sa troupe de l'appuyer. La porte est enfoncée. D'Imbercourt, quoique blessé au visage, combat toujours. Le maréchal de Chabannes arrive, les Français entrent tous ensemble dans la ville. Les Italiens, consternés, n'opposent aucune résistance. La maison de Prosper Colonne est environnée. On trouve ce général à table, ne soupçonnant rien de ce qui se passait. D'Aubigny le fait prisonnier. Les Français avaient eu d'un autre côté des succès moins éclatants, mais non moins considérables. Les troupes embarquées sous la conduite d'Aymar de Pris étaient descendues à Gênes, avaient trouvé les Génois fidèles à leurs nouveaux engagements, avaient été recueillis dans leur port et accrus de leurs soldats. 4000 Génois s'étaient joints à elles. Les villes d'Alexandrie et de Tortone avaient été surprises, presque toute la partie du Milanais située au-delà du Pô était conquise. Les confédérés abattus commençaient à se diviser. Ils s'observaient avec une défiance mutuelle, chacun contribuait le moins et le plus tard qu'il pouvait à la défense commune. Le roi d'Espagne avait envoyé de l'argent pour payer les Suisses. Il différa le paiement dans la crainte de payer seul et dans l'espérance de ne point payer du tout si l'on donnait bataille et que les Suisses fussent défaits. Le pape, dont la prise de Cologne avait confondu la prudence, ménageait secrètement sa réconciliation avec le roi par l'entremise du duc de Savoie. Le roi, bien instruit de la terreur que ses armes inspiraient à Léon X, voulut en profiter, non pour lui, mais pour ses alliés. Le pape ne prit d'autre parti que celui d'attendre les événements et de traiter toujours avec les Français, afin que leur succès, s'ils continuaient d'en avoir, le trouvassent en négociation ouverte. Le cardinal de Sion et les Suisses, frémissant de rage de voir les Français échapper à leurs coups, rentrèrent précipitamment dans le Milanais pour en défendre les restes. Le chevalier Bayard, qui observait et inquiétait les Suisses, fut instruit de leur division. Il en avertit le connétable de Bourbon, qui écrivit au roi pour lui demander la permission d'en profiter et pour l'assurer que les Suisses seraient infailliblement défaits si on les attaquait dans ces moments de trouble. Le roi était encore à Lyon avec le corps d'armée. Il jugea qu'il serait plus prudent d'attendre la réunion de l'armée entière. Il voulait d'ailleurs avoir part à la gloire. Il aurait été fâché que, sans lui, les Suisses eussent été battus et le Milanais conquis. Il hâta sa marche, malgré les remontrances du roi d'Angleterre qui, jaloux de ses premiers succès, renvoya prier de ne point troubler la paix de la chrétienté. Il passa les Alpes sans obstacle. Il traversa rapidement le Piémont, où le duc de Savoie, son oncle, lui rendit tous les honneurs qu'un petit souverain doit à un grand roi. Il continua sa marche et prit plusieurs places sans s'arrêter. Novare lui présenta ses clés. Ce fut là que le duc de Gueldre le joignit avec ses bandes noires. Enfin, il vint avec ses forces réunies camper à Marignan. Il restait une jonction importante à faire, et une jonction importante à empêcher. Il fallait que l'Alviane, avec l'armée vénitienne, joignît les Français. Il fallait que Laurent de Médicis, avec les troupes de l'Église, et Raymond de Cardonne, avec les troupes espagnoles, ne joignissent point les Suisses. Cependant, le roi traitait avec les Suisses et tout paraissait se disposer à un accommodement. Les Suisses demandaient pour eux une somme d'argent, à la vérité exorbitante, et pour Maximilien Sforza, une pension de 60 000 ducats. À ce prix, le duché de Milan devait être remis entre les mains du roi. C'était encore le duc de Savoie qui ménageait ce traité à Galéra. Quelque onéreux qu'il fût, le roi voulut bien y souscrire. « Un roi, écrivait-il à Lautrec, ne doit point hasarder le sang de ses sujets, ni verser le sang de ses ennemis, lorsqu'il peut racheter l'un et l'autre avec de l'argent. » Paroles admirables dans un jeune roi passionné pour la gloire. Sa conduite ne les démentait point. Il accorda aux Suisses tout ce qu'ils voulurent. Il fut attentif jusqu'au scrupule à leur ôter tout prétexte de rupture. Enfin, le 8 septembre, on était convenu de tout. La somme demandée était prête. Grâce au zèle héroïque des principaux officiers qui vendirent leur vaisselle et donnèrent tout leur argent. Le bâtard de Savoie et le maréchal de Lautrec furent chargés de mener ce convoi à Bufalora, où les Suisses devaient se trouver pour le recevoir. Mais la haine du cardinal de Sion ne s'endormait point. Cet implacable ennemi des Français et de la paix courait dans tout le camp, y répandait ses fureurs, animait les officiers suisses à la guerre, avec cette éloquence impétueuse que la passion inspire et qui inspire la passion. Ces violentes harangues réveillaient dans tous les cœurs l'amour de la guerre et l'avidité du butin. les Suisses se déterminèrent à suivre le plan d'infidélité que le cardinal leur traçait. Étrange pouvoir d'un seul homme sur la multitude. Cette nation, distinguée dans l'Europe par sa probité, par son humanité, croyait s'illustrer en égorgeant de sang-froid des hommes qui lui portaient le prix de la paix et qui dormaient sur la foi des traités. Le duc de Savoie, désespéré de l'infidélité des Suisses, avait essayé vainement de renouer la négociation. Les conjonctures n'étaient plus si favorables aux Suisses. On avait prévenu leurs projets. L'argent n'avait point été porté à Bufalora, ils ne s'en étaient point emparés. Le roi veillait sur son camp. L'armée vénitienne allait s'approcher, mais les Suisses étaient trop avancés pour reculer. Ils se déterminèrent au combat et marchèrent vers Marignan. Le roi s'entretenait avec l'Alviane, qui était venue de Lodi pour prendre des arrangements avec lui, lorsque le connétable de Bourbon lui fit dire qu'on voyait les Suisses s'avancer en ordre de bataille. À cette nouvelle, l'Alviane remonte à cheval et court à toute bride vers son camp de Lodi pour hâter la marche de l'armée vénitienne. Le roi demande ses armes et va se mettre à la tête de ses troupes, charmé de voir la gloire qui s'offrait d'elle-même à lui et qui le contraignait de recevoir ses faveurs dans le temps où il faisait l'effort d'y renoncer par amour pour son peuple et par respect pour l'humanité. Ses soldats partageaient sa joie. Ils voyaient avec transport arriver le moment de laver l'affront reçu à Novare. Le connétable, si digne de vaincre avec son roi, rangea promptement l'armée en bataille, confia la garde de l'artillerie aux lansquenets, rivaux redoutables, ennemis mortels des Suisses, et disposa autour des lansquenets sa cavalerie sur deux ailes. Les Suisses s'avançaient avec un silence farouche vers l'artillerie. Pour mieux surprendre les Français, ils n'avaient ni trompette ni tambour. Leur dessein était de s'emparer d'abord de l'artillerie, de l'enclouer ou de la tourner contre les Français. C'était par cette manœuvre qu'ils avaient gagné la bataille de Novare. Ils négligèrent donc la cavalerie des deux ailes et chargèrent les lansquenets avec une vigueur forcenée. L'affection apparente de cette démarche alarma les lansquenets. Ils savaient qu'on avait traité de la paix avec les Suisses. Ils ne purent croire qu'elle eût été sincèrement rompue. Ils s'imaginèrent qu'ils en étaient le prix et que les Français étaient convenus de les sacrifier aux Suisses. Frappés de cette idée, ils reculèrent 100 pas, gardant leur rang, observant amis et ennemis d'un œil plus inquiet qu'effrayé. Le connétable vit ce mouvement et en pénétra la cause. Il lut dans l'âme des lansquenets le soupçon injurieux dont elle était remplie. Il jugea qu'il fallait, en les désabusant, leur inspirer encore une émulation utile. Il fit avancer les bandes noires, le roi à leur tête, pour la défense de l'artillerie que les ennemis saisissaient déjà. La gendarmerie soutient les bandes noires. Les deux ailes réunies fondent sur les Suisses. Un dépit magnanime saisit les lansquenets. Ils rougissent de leur erreur et volent pour la réparer. Ils préviennent les bandes noires et reprennent leur premier poste. Les bandes noires, de leur côté, veulent justifier le choix que le connétable avait fait d'elles pour remplacer les lansquenets. Une ardeur jalouse réunit d'abord tous les différents corps et les Suisses sont pressés de toutes parts sans être ébranlés. Ils résistent. Ils attaquent avec la même vigueur, on se mêle, les bataillons se coupent, on combat par peloton. Ici, l'ennemi est défait, là, il est vainqueur. Le connétable, le maréchal de Chabannes, d'Imbercourt, Téligny, Créqui de Pont-d'Ormy, s'acharnaient avec leur compagnie de gendarmes à entamer un gros bataillon suisse qui repoussait toutes leurs attaques. Ils revinrent plus de 20 fois à la charge. Ils épuisèrent toutes les ressources de la valeur. Ils furent enfin rejetés sur l'infanterie et prêts d'être accablés. Le roi, pour les dégager, charge en flanc le bataillon suisse et avec 200 hommes d'armes, défait près de 4000 hommes dont ce bataillon était composé. Il les force de jeter leurs piques et de crier « France !» Ils volent ensuite à de nouveaux périls. L'approche de la nuit, jointe à un tourbillon de poussière qui s'élève entre les combattants, empêche de reconnaître si on est entouré d'amis ou d'ennemis. Les Suisses portaient aussi bien que les Français des écharpes et des croix blanches, et on les distinguait très difficilement, au clair de la lune, à des clés qu'ils portaient sur l'épaule et sur l'estomac, pour marque de leur dévouement au Saint-Siège. Dans cette confusion, les Suisses avaient un avantage considérable. N'ayant guère que de l'infanterie, ils étaient sûrs de ne point perdre leur coup en donnant principalement sur la cavalerie. Le roi rencontra un nouveau bataillon d'environ 8000 hommes. Il le prit pour la troupe des Lansquenets. Mais à peine eut-on crié « France !» qu'on se vit assailli d'une multitude de piques. On répondit par des prodiges de valeur qui donnèrent le temps au roi de rallier 5 ou 6 000 Lansquenets et aux connétables de ramener à la charge l'infanterie française et une partie de la gendarmerie. Tandis que le connétable enfonce d'un côté le bataillon suisse, le roi, maître alors de l'artillerie, déjà plusieurs fois prise et reprise, se fait jour d'un autre côté à grands coups de canon et passe à travers les ennemis qui reculent et perdent beaucoup de terrain. Les Suisses se partagent encore en peloton et renouvellent le combat en 1000 endroits. Le roi retourne à l'artillerie, où était toujours le fort de la bataille et le centre du péril. Là, le feu, la fumée, la poussière, l'obscurité rendaient le combat aveugle et terrible. Là, on frappait indistinctement amis et ennemis. Le chevalier Bayard, l'œil, le bras de l'armée et la terreur des Suisses, Louis de la Trémoille, que l'on regardait particulièrement l'affront de la défaite de Novare, le prince de Talmont, son fils, ne s'était jamais écarté de ce poste redoutable. Les Suisses y portaient sans cesse tous leurs efforts. On avait combattu depuis 3 heures après-midi jusqu'à 11h30, et l'ardeur des combattants n'en était que plus enflammée. Enfin, la lune leur déroba entièrement sa lumière. La profondeur de la nuit suspendit leurs coups, sans les séparer. Chacun resta dans le poste où il se trouvait. La gendarmerie à cheval, l'infanterie sous les armes, Suisses, Français, Lansquenets, Milanais, mêlés, confondus les uns avec les autres. Aucun n'osait se faire connaître à son voisin, de peur de rencontrer un ennemi. Le prince de Talmont était enfermé entre 2 bataillons suisses. Bonnivet, frère de Gouffier-Boisy, croyait soutenir de sa cavalerie les 10 000 Gascons commandés par Navarre, mais leur ardeur les avait emportés jusqu'au milieu du corps de bataille des Suisses, et Bonnivet était enveloppé de tous côtés. Le roi était environné des siens qui se rassemblaient autour de lui autant qu'il le pouvait. Il était éclairé d'un seul flambeau, et c'était trop encore. Épuisé par la fatigue, la chaleur et la soif, il demande à boire. On lui présente dans un casque une eau bourbeuse et teinte de sang, qu'il avale avec avidité et qu'il revomit aussitôt avec horreur. Vandenesse, frère du maréchal de Chabannes, arrive, annonce avec effroi qu'on n'est qu'à 50 pas du plus gros bataillon des Suisses et que le roi ne peut éviter d'être pris s'il est aperçu. La retraite était dangereuse. Le grand maître de Boisy prit le parti d'éteindre le flambeau et de faire rester le roi à sa place. Le roi le crut, il reposa sans dormir et tout armé sur l'affût d'un canon, attendant avec impatience le retour du jour et le renouvellement du combat. À la pointe du jour, les 2 armées se mirent en ordre de bataille. Chacun courut se ranger sous son drapeau. Il y eut pendant un instant une espèce de trêve tacite qui n'était qu'une préparation à un nouveau combat. Beaucoup de Français qui avaient cru le roi mort se rassemblèrent autour de lui avec des transports de joie, présage de la victoire. Cependant, les Suisses revinrent à la charge avec tant d'impétuosité que les Lansquenets reculèrent une seconde fois plus de 100 pas. Les bandes noires en firent autant. Un jeune Suisse pénétra même jusqu'à l'artillerie, à travers l'infanterie allemande et la cavalerie française qui la soutenait. Il eut la gorge percée d'un coup de pique au moment où il mettait la main sur un canon pour l'enclouer. Le connétable soutint si constamment avec sa gendarmerie les Lansquenets et les bandes noires que ses troupes ne purent jamais être enfoncées. Galliot de Genouillac, maître de l'artillerie, supérieur dans cette importante partie, renversait avec tant de continuité des files entières des ennemis, ouvrait si à propos des routes faciles à travers leurs plus épais bataillons. Le roi profitait de ces avantages avec tant de vivacité que la victoire, au bout de 4 heures de combat, parut enfin se déclarer d'une manière certaine pour les Français. Les Suisses, non encore découragés, tentèrent de la ramener par une diversion à droite. Ils détachèrent de la queue de leur armée un corps considérable qui, sans être aperçu, alla par un long circuit et à la faveur d'un vallon, tomber sur l'arrière-garde française. Mais celle-ci se trouva plus attentive et mieux disposée à recevoir les Suisses qu'il ne l'avait cru. Le duc d'Alençon, qui la commandait, repoussa vivement cette attaque. Maugiron et Cossé, avec leur compagnie de gendarmes, et Pierre de Navarre avec ses Gascons, achevèrent la défaite de ce détachement. Les Suisses cédèrent enfin et se retirèrent en bon ordre. Le roi, content de les avoir vaincus, dédaigna de les poursuivre. Il détestait ce carnage inutile et inhumain qui assouvit la fureur du soldat sans ajouter à la gloire du vainqueur. Les Suisses se partagèrent dans leur retraite, les uns allèrent à Milan, les autres reprirent la route de leur pays. Cette bataille de Marignan, si glorieuse aux vainqueurs et même aux vaincus, coûta aux Suisses plus de 15 000 hommes et n'en coûta guère moins de 6 000 aux Français. Ainsi, le cardinal de Sion resta chargé envers l'humanité du crime d'avoir fait égorger plus de 20 000 hommes pour les seuls intérêts de sa haine. L'histoire fournit peu d'exemples et de tant d'acharnement et de tant de valeur. D'un prêtre animant ainsi au carnage et à la perfidie une nation effrénée pour des objets étrangers à la religion. D'un jeune roi dont le premier exploit était si brillant. De tant de souverains rassemblés sous ses drapeaux, combattant sous ses ordres comme de simples capitaines. De tant de têtes si précieuses, exposées à des périls si grands. De 2 armées passant 2 jours et une nuit entière sous les armes, dans l'action, dans la fatigue, dans le danger, sans boire, manger ni dormir. Le maréchal de Trivulz, qui avait combattu dans 17 batailles, disait que celle de Marignan était un combat de géants, et toutes les autres des jeux d'enfants. Le roi eut son cheval blessé de 2 coups de pique et reçut de violentes contusions, ses armes ayant été enfoncées en plusieurs endroits. Il combattit en soldat, non en roi. Il n'avait recherché ce jour-là d'autres distinctions que celles qui pouvaient attirer plus particulièrement sur lui les regards et les coups des ennemis. Sa cotte d'armes d'azur était semée de fleurs de lys d'or. Une rose d'escarboucle brillait sur son casque.
Du regard de l'académicien Gabriel-Henri Gaillard, passons à celui d'un autre académicien, Victor Duruy. Victor Duruy, né en 1811 à Paris, était issu d'une famille d'ouvriers. Il travaille d'abord dans l'atelier des apprentis de la manufacture des Gobelins. Grâce à une bourse d'études, il suit des études classiques et en 1830, il est admis à l'École nationale supérieure. Il obtient l'agrégation d'histoire et de géographie en 1833. Sous la monarchie de Juillet, il rédige de nombreux manuels d'histoire pour les classes élémentaires. Il dirige la collection de l'histoire universelle. Il est nommé en 1853 professeur à l'École normale. Il publie de nombreux ouvrages sur l'Antiquité qui lui apportent une renommée internationale. Napoléon III le sollicite pour l'aider dans la rédaction de l'histoire de Jules César. Victor Duruy est nommé alors professeur à l'école polytechnique et il devient en 1863 ministre de l'instruction publique, fonction qu'il occupera pendant 7 ans. Il entreprend une profonde réforme de l'éducation, s'attache à améliorer le sort des instituteurs, encourage la création d'écoles de filles et la gratuité de l'éducation. Par le décret de 1868, il fonde l'école pratique des hautes études afin de développer la recherche et pour former des savants. Il abandonne ses fonctions ministérielles dès 1869, siège au Sénat jusqu'à la fin de l'Empire. Dans les combats de 1870, il est engagé volontaire comme garde national. Au début de la Troisième République, il consacre ses travaux à l'Antiquité et il publie en 1873 l'histoire des Grecs et en 1889 l'histoire des Romains. Jules Ferry fera appel à son aide pour élaborer sa réforme du Conseil supérieur de l'instruction publique. Membre de l'Académie des inscriptions en 1873, Victor Duruy est élu à l'Académie des sciences morales et politiques en 1879. Et en 1884, il est élu à l'Académie française en remplacement de Mignet. Victor Duruy mourra à Paris en 1894. Voici donc la lecture d'extraits de son Histoire de France dans la nouvelle édition publiée en 1874 à la librairie Hachette et Compagnie. Le tome 1, La Renaissance en France. Tout cela pour vous donner un aperçu de l'évolution des mœurs au temps de François Ier et des nouvelles idées qui circulent dans le royaume. Car comme l'écrit un autre académicien célèbre, François de Chateaubriand, tout changea donc en France. Les vêtements même s'altérèrent. Il se fit des anciennes et des nouvelles mœurs un mélange unique. Voici donc quelle fut la cour de François Ier, les moments durs de la réforme et le massacre des Vaudois, puis la fin du règne de François Ier.
Durant son séjour en Italie, François Ier avait été frappé des merveilles que la Renaissance y enfantait et il s'était promis d'importer en France l'art nouveau comme sa plus précieuse conquête. Il décida plusieurs des grands artistes italiens à le suivre au-delà des monts et acheta aux autres quelques-uns de leurs chefs-d'œuvre. Ce qui valait mieux que l'or donné aux artistes, c'était les égards du jeune conquérant pour les maîtres de l'intelligence. La tradition, qui le représente tenant Léonard de Vinci dans ses bras au moment où le grand artiste rend le dernier soupir, en 1519, est malheureusement fausse. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il l'appelait son père. C'est qu'il recevait un tableau de Raphaël avec l'appareil des pompes royales. C'est qu'il aimait toutes les choses de l'esprit et que le savant, le poète, l'artiste, traités par lui comme des hommes utiles à l'État, ne se trouvaient point déplacés dans la cour brillante dont ils s'entouraient. Cette cour de France, qui a exercé sur les mœurs publiques, sur les lettres, sur l'esprit de la nation et jusque sur les nations étrangères, une si longue et trop souvent une si pernicieuse influence, date de François Ier. Avant lui, elle n'existait pas. De graves conseillers entouraient seul Louis XII et la chaste Anne de Bretagne n'autorisait autour d'elle que des plaisirs tranquilles et rares. François Ier voulut être toujours suivi d'une troupe si nombreuse que l'on comptait autour de la demeure royale, rarement moins de 6 000 et quelquefois jusqu'à 18 000 chevaux. Les nobles n'y vinrent pas seuls s'y assouplir à l'obéissance sous les regards du maître. François, qui prétendait qu'une cour sans dame était une année sans printemps et un printemps sans rose, attira par l'éclat de ses fêtes les châtelaines, jusqu'alors oubliées au fond de leurs manoirs féodaux. Du commencement, dit très bien Mézeray, cela eut de fort bons effets, cet aimable sexe ayant amené à la cour la politesse et la courtoisie, et donnant de vives pointes de générosité aux âmes bien faites. Mais les mœurs se corrompirent bientôt. Les charges, les bienfaits se distribuèrent à la fantaisie des femmes et elles furent cause qu'il s'introduisit de très méchantes maximes dans le gouvernement. Trois femmes surtout exercèrent dans cette cour, sous le règne de François Ier, une influence désastreuse. La propre mère du roi, Louise de Savoie, la comtesse de Chateaubriand, sœur de Lautrec, et la duchesse d'Étampes, qui, pour nuire au dauphin auprès de son père, alla jusqu'à livrer aux ennemis de la France les secrets de l'État. Ce schisme dans l'Église était produit par l'irrésistible mouvement qui, au XVIe siècle, emportait les esprits hors des horizons battus. L'Antiquité retrouvée avait ouvert à la pensée des sentiers inconnus, tandis que Christophe Colomb et Vasco de Gama découvraient et livraient à l'activité des hommes de nouveaux mondes, Copernic découvrait et livrait à leur méditation les vraies lois de l'univers. Comment s'étonner que ce siècle, qui voyait ses grands résultats de l'audace et de l'intelligence humaine, se soit abandonné à la redoutable puissance de la pensée ? Émerveillé de toutes ces nouveautés, il se mit à douter de beaucoup de choses anciennes. L'esprit de curiosité et d'examen se porta sur tout. Il transforma les arts, les lettres, les sciences, l'état social. Il voulut transformer aussi les institutions religieuses qui, au témoignage du dernier des pères de l'Église, fléchissaient sous le poids des abus. En vain, au XVe siècle, les conciles de Bâle et de Constance s'étaient proposés de corriger la discipline et les mœurs. En vain, le cardinal Julien disait à Eugène IV « Je vois que la cognée est à la racine, l'arbre penche, et au lieu de le soutenir, pendant qu'on le pourrait encore, nous le précipitons à terre. » L'Église ne voulut point se réformer elle-même, mais 80 ans ne s'étaient pas écoulés qu'une révolution lui enlevait la moitié de l'Europe. C'est à la fin de l'année 1517 que Luther avait commencé la lutte avec Rome. En 1520, la rupture était accomplie. En 1525, l'électeur de Saxe, le landgrave de Hesse-Cassel, les ducs de Mecklembourg, de Poméranie, de Zell et un grand nombre de villes impériales avaient accepté les idées du réformateur. Et ce qui était redoutable, le grand maître de l'ordre teutonique avait sécularisé un des plus vastes domaines de l'Église, la Prusse, dont il s'était déclaré duc héréditaire. Les nouvelles opinions se glissèrent de bonne heure en France. Leurs premières conquêtes furent parmi les lettrés. Tous nos grands jurisconsultes de ce siècle, soit en secret, soit ouvertement, acceptèrent la réforme. Une partie même de la cour y penchait. Louise de Savoie semblait n'y être point contraire. Sa fille Marguerite, reine de Navarre, belle et libre esprit, auteur de mystères et de nouvelles, professait ouvertement le principe des réformateurs allemands. La duchesse d'Étampes, amie du roi, se piquait de les protéger. Lefèvre d'Étaples, Louis Berquin, savant connu et estimé de François, soutenait des thèses en leur faveur. Le premier avait commencé 6 ans avant Luther. Enfin, le poète favori de la cour, Clément Marot, délaissait ses élégies et ses épigrammes pour traduire les psaumes de David que les réformés de Paris allaient chanter auprès au clerc. François, loin de s'effrayer d'abord de ses symptômes, voulait s'attacher le roi de l'érudition et des lettrés de ce siècle, Érasme, de Rotterdam, qu'on accusait d'avoir préparé les voies à Luther par ses attaques contre les moines. Mais lorsque les paysans allemands, tirant les conséquences sociales des nouvelles doctrines, voulurent renverser toute autorité, François Ier pensa que la réforme, qui était une révolte contre le pape, était bien près de conduire, en politique, à une révolte contre le roi. Et s'il resta l'ami intéressé des protestants allemands, il ne voulut point que leur doctrine gagnasse ses états. Pendant la captivité du roi, 2 luthériens avaient été brûlés dans la capitale. Il avait arrêté ses exécutions, mais en 1528, une statue de la Vierge fut mutilée à Paris. François déclara que s'il savait un sien membre infecté de cette doctrine, il l'arracherait de peur que le reste n'en fût corrompu et il fit poursuivre dès ce jour les rénovateurs. Berquin, qui refusa de se rétracter, fut brûlé sur la place Maubert en 1529. À Vienne, à 16, à Toulouse, il y eut d'autres exécutions. La nécessité de ménager les protestants d'Allemagne adoucit la persécution, mais en 1536, six malheureux furent encore suppliciés sur diverses places de Paris en présence de la cour. François s'affaiblissait. Ce n'était plus le brillant chevalier de Marignan ou de Pavie, l'ami de Léonard de Vinci et d'Erasme. Ruiné avant l'âge par les excès, il était à 51 ans un vieillard morose. La plus grande tâche de son règne se rapporte à ses années malheureuses. Tant que durait la guerre avec Charles Quint, François Ier ménageait les dissidents. L'édit de Coucy avait même ordonné, en 1535, la suspension de toute poursuite pour fait de religion. La paix conclue, les hommes durs et de funestes conseils, comme Montmorency et le cardinal de Tournon, reprenaient l'avantage. Après le traité de Crespy, ils attribuèrent les revers du roi, ses souffrances même, au relâchement de ses rigueurs. Il se laissa même persuader d'ordonner de nouveaux supplices. À Meaux, 14 bûchers furent dressés en un même jour, en 1546. Mais l'exécution la plus odieuse fut celle de toute une population inoffensive, les Vaudois, dont les croyances étaient vieilles de plus de 3 siècles. Ils avaient été condamnés en 1540 comme hérétiques. On avait sursis à l'exécution en faveur des paysans paisibles qui payaient régulièrement l'impôt et ne montraient que des mœurs pures et simples dans les 2 petites villes de Mérindol et de Cabrières et dans 30 de villages des Alpes et de Provence. Mais en avril 1545, des ordres précis et rigoureux arrivèrent de la cour au Parlement d'Aix. Le baron de Lagarde, assisté du président d'Oppède et de l'avocat général Guérin, entra inopinément avec des soldats sur le territoire de ces malheureux. Trois mille furent massacrés ou brûlés dans leurs habitations. 660 envoyés aux galères, le reste dispersés dans les bois et les montagnes, où la plupart moururent de faim et de misère. Il ne demeura pas une maison, pas un arbre, 15 lieues à la ronde. François Ier, qui peut-être ne connut pas tous les détails de ce drame exécrable, approuva ce qui s'était fait et ordonna de continuer la persécution. Les affaires du dehors n'en allèrent pas mieux. C'était le temps où Charles Quint, débarrassé de la guerre de France et assuré de la paix avec les Turcs, tournait ses forces contre les protestants de l'Allemagne et, sous prétexte de tuer l'hérésie, cherchait à tuer les libertés germaniques. La bataille de Mühlberg parut mettre l'Empire à ses pieds. François Ier ne vit pas ce grand succès de son rival. Il était mort 3 semaines auparavant, au château de Rambouillet, à l'âge de 52 ans, le 31 mars 1547. Ce fut, en bien comme en mal, un prince remarquable. Il eut de brillants défauts, pour lesquels la France a eu de tout temps trop de faiblesses. Sa galanterie allait jusqu'à la débauche, sa magnificence jusqu'à la profusion, son courage jusqu'à la témérité. Il fut violent, capricieux, livré à d'indignes favoris, au besoin même injuste, perfide, cruel et toujours absolu dans ses volontés. Montra quelquefois de la vraie grandeur, comme le jour, c'était avant le massacre des Vaudois, où il pardonna aux Rochelais révoltés, ne voulant pas, disait-il, avoir, ainsi que l'empereur, du sang de ses sujets sur les mains. Il aima les choses de l'esprit, il eut le goût des choses de l'art, et malgré son despotisme et ses fautes, son nom sera toujours cité avec honneur dans ce grand siècle d'où date la civilisation moderne.
« Vous venez d'écouter les académiciens Gabriel-Henri Gaillard et Victor Duruy raconter l'histoire de François Ier. Le comédien Michel Girard a lu les textes de Gabriel-Henri Gaillard, Pierre Perrac, ceux de Victor Duruy. Le choix des textes et des musiques est signé Daniel Jeanne. Enregistrement, montage, mixage, Jérôme Le Baron. Réalisation, Virginia Crespo.